Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez déroutant qui touche vraiment aux limites de ce qu'on pense être la réalité. Eh oui, on va parler des expériences avec la DMT, la N,N-diméthyltryptamine, c'est ça. Les récits sont souvent incroyables. Des rencontres avec des entités qui semblent conscientes, des voyages dans d'autres dimensions, le temps qui se distord complètement. Et pourtant, malgré le côté étrange, il y a une constance assez frappante dans ces témoignages. Et ce qui est nouveau, c'est que la science commence sérieusement à essayer de comprendre, de cartographier ces états de conscience. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ça. Qu'est-ce qu'on vit exactement? C'est quoi la structure de ces mondes DMT? Qui sont ces entités? Et surtout, voir comment notre cerveau réagit. Qu'est-ce que les neurosciences nous disent sur ce qui se passe là-haut pendant ces expériences hors normes? Alors, pour faire cette analyse approfondie, on a regardé pas mal de choses. Des articles scientifiques assez récents, oui, Kagan 2025, Michael and Luke 2021, Davis et al. 2020, Laurence et al. 2022, et aussi une étude super détaillée, là, le PDF, Mapping a Discrete Psychedelic Dimension. Mais pas seulement, on a aussi d'autres angles. Tout à fait. Un article de blog qui parle d'écologie cosmique de la DMT, c'est intéressant comme concept. Et puis, des notes de synthèse sur les liens cerveau-expérience, le rôle que pourrait jouer l'IA, sans oublier des figures comme Terence McKenna. On a des extraits d'une de ses conférences et une interview de Sarah Finantley sur son travail de cartographie de ces espaces. Voilà, l'idée c'est de voir s'il y a des motifs qui reviennent tout le temps, si on peut lier le ressenti subjectif à des mesures objectives, des chiffres dans le cerveau, et puis réfléchir à ce que tout ça implique pour la thérapie, pour notre compréhension du monde, peut-être même pour la technologie. Bon, alors, on y va. Plongeons dans cet univers DMT. Commençons par l'expérience elle-même, la phénoménologie, comme on dit. Quand la DMT est administrée en intraveineuse, l'effet est quasi instantané. Boum! Et les gens décrivent une immersion totale, hein, dans un environnement qui n'a plus rien à voir avec le réel ordinaire. C'est ça. Et il y a des choses qui reviennent tout le temps. L'étude de Laurence et le fameux PDF Mapping parle des types d'environnement. Oui, genre des dimensions alternatives ou supérieures. Ça revient dans un quart des cas. Après, il y a des pièces, des salles d'attente. 15% pour ça. Des tunnels aussi, 10%. Et puis des paysages plus classiques, jardins, jungles, mais aussi des trucs très technologiques, mécaniques, ou même des vides. C'est varié, mais avec des pôles récurrents, quoi. Exactement. Et l'autre truc quasi universel, c'est la distorsion du temps. C'est dingue. Ah oui, ça, l'étude Mapping insiste beaucoup dessus. Carrément. Tous les participants le disent. Quelques minutes qui semblent durer des heures, des jours. Ils ont même calculé un facteur de compression subjective 1800 fois. 1800 fois. C'est énorme. Et c'est pas juste un détail. Ils décrivent ça comme le portail, en fait. Le mécanisme même d'entrée dans la dimension de l'IMT. C'est cette dilatation qui permet le voyage. Fascinant. Et puis, il y a le grand sujet, les rencontres. Les entités. Ah, les entités. C'est central. Laurence et son équipe parlent de presque la moitié des cas, 45,5%. Michael et Luc, eux, c'est carrément 94%. Et d'autres études, comme celle de Timmerman, disent plus de 80% quand les doses sont fortes. C'est énorme. Et le plus troublant, c'est comment elles sont perçues. Pas comme des projections de soi, hein. Non, comme autonomes, intelligentes, ayant leur propre existence.
Le sondage de Davis le confirme bien, ça. Les gens sont convaincus de leur réalité indépendante.
Oui, et souvent, l'interaction est positive, bienveillante, même pédagogique, d'après Lawrence. Le PDF Mapping va encore plus loin dans les détails.
C'est là qu'on trouve des trucs comme le plus réel que le réel.
Exactement. Ce sentiment d'hyper-réalisme, ça pose question sur notre définition même de la réalité, forcément.
Forcément.
Il y a aussi des transferts d'infos symboliques, complexes. L'exemple des ballons de basket incrustés de bijoux qui dribblent. Ça a l'air absurde, mais pour la personne, ça véhicule une logique, une information.
Et le message de bienvenue. Télépathique, souvent.
Oui. Ou la vision de cité de lumière et d'électricité. La rencontre avec cette entité maternelle rose et chaleureuse. Jusqu'à des messages très clairs d'unité. Nous sommes tous un.
C'est fou parce que c'est vécu de manière si intense, si réelle. Et pourtant.
Et pourtant, c'est quasi impossible à décrire avec des mots. L'ineffabilité, ça reste un marqueur fort. Malgré la vivacité de l'expérience, en parler, c'est compliqué.
Absolument. Ça nous amène à une idée assez intéressante, développée par Kagan et Lawrence notamment, l'écologie cosmique.
Oui, cette idée que les entités ne seraient pas juste là, comme ça au hasard. Elles seraient liées à des environnements spécifiques, des sortes d'habitats dans l'espace DMT.
Une structure interne, en fait. Une sorte de carte.
C'est un peu ça. On voit des associations qui reviennent. Par exemple, dans les dimensions alternatives, on trouvait plus souvent des figures divines ou des entités féminines.
Les entités féminines, d'ailleurs, sont les plus fréquentes globalement, non?
Oui, autour de 24% des rencontres, selon Nuance, et elles sont souvent liées aux expériences mystiques, au sentiment d'accéder à une réalité fondamentale.
D'accord. Et les salles d'attente?
Là, ce serait plutôt le domaine des farceurs, les jesters, ou des guides, des aides, helpers. Comme une sorte de seuil, de zone de test ou de préparation avant d'aller plus loin.
Ça donne l'impression d'une progression, d'une géographie symbolique.
Tout à fait. Les tunnels, eux, seraient associés aux entités guides qui accompagnent la transition.
Logique.
Les cadres naturels, jardins, jungle, verraient apparaître des enseignants des plantes, des esprits de la nature. C'est lié à la sagesse naturelle, la conscience écologique.
Et les royaumes technologiques, Xuzu, avec les elfes mécaniques.
Voilà, ou les figures d'extraterrestres. Là, on touche à l'idée d'un machinerie derrière le réel, aux technologies avancées.
Et même le vide, l'obscurité, aurait ses propres habitants.
Oui, des entités plus informes, métamorphes, souvent liées à la dissolution de l'ego, à la nature plus fondamentale de la conscience. Ça dessine vraiment une carte interne assez cohérente, finalement.
C'est une perspective assez incroyable, cette écologie interne. Maintenant, la question qui tue, est-ce que tout ça... Ça se voit dans le cerveau. Est-ce qu'il y a une trace mesurable? Que disent les neurosciences?
Dès là que ça devient particulièrement étonnant. Les études récentes avec l'EEG haute densité, l'IRM fonctionnel, comme celle du PDF MAPIL, elles sont toutes d'accord. La DMT, ça provoque un état cérébral vraiment à part. Très spécifique.
Différent de l'état de veille normal ou d'un placebo, j'imagine.
Ah oui, clairement. Il y a une vraie signature neuronale de l'état DMT.
Et ça ressemble à quoi, concrètement? C'est quoi les changements clés dans le cerveau?
Alors, en gros, il y a trois grands changements principaux. Le premier, c'est une hyperconnectivité entre certaines zones du fameux réseau du mode par défaut, le DMN,
celui qui est actif quand on rêvasse, quand on pense à soi.
Exactement. Eh bien, ce réseau se connecte beaucoup plus fortement avec les zones du cortex visuel. C'est un peu comme si notre moi introspectif se branchait en direct sur notre écran mental.
D'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième...
Une augmentation très nette de ce qu'on appelle le couplage croisé des fréquences θ gamma, le CFC. Pour faire simple, c'est une sorte de synchronisation très particulière entre des zones cérébrales de différentes vitesses.
Et ça se passe où?
Surtout dans les zones liées à la perception, à la mémoire spatiale, comme le cortex temporal médial. Ça a l'air d'être crucial pour l'intensité de l'expérience.
Ok, donc plus de connexion à certains endroits, une synchro particulière, et le troisième point.
C'est presque le contraire. Une baisse marquée de la connectivité, on parle d'un découplage d'environ 45% entre les réseaux frontopariétaux.
Ce qui gère le contrôle, la planification.
C'est ça. Donc, peut-être une partie de l'explication pour cette sensation de perte de contrôle volontaire sur ce qui se passe pendant l'expérience.
D'accord. Un état cérébral vraiment particulier. Mais est-ce que c'est le même pour tout le monde ou est-ce que chacun vit son truc dans son coin avec une signature cérébrale unique?
Excellente question. C'est même fondamental. L'étude Mapping PDF a justement regardé ça. La similarité des signatures neuronales entre les participants. Surtout pour ce couplage θ-gamma.
Et alors?
La corrélation moyenne est super élevée, entre 0,82 et 0,85. En neurosciences, un R de 0,85, c'est énorme. Ça suggère fortement que ce n'est pas juste une hallucination perso et aléatoire.
Waouh! Donc un état cérébral non seulement distinct, mais en plus partagé.
Oui, et il y a encore mieux. Cette similarité neuronale entre les sujets, elle est elle-même corrélée à la complexité des entités qu'ils rencontrent. Le R est de 0,76.
Attendez, plus l'état cérébral est similaire entre deux personnes, plus les entités qu'elles décrivent sont complexes.
C'est exactement ça. Ça va vraiment contre l'idée d'hallucination purement subjective et sans structure commune.
C'est curieux, c'est assez bluffant comme résultat. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à relier quantitativement, avec des chiffres précis, l'intensité de ce qui est ressenti Le temps qui s'étire, la présence d'une entité à ces mesures cérébrales.
Absolument. C'est tout le but de ce qu'on appelle la neurophénoménologie quantitative. Mettre des chiffres sur le lien entre le vécu et le cerveau. Et là, les corrélations sont incroyablement fortes.
Ah oui? À quel point? Prenez la dilatation temporelle. L'intensité subjective de cette sensation, elle est corrélée à R égale 0,82, avec le couplage θ-gamma dans le cortex temporal médian, et à R égale 0,80 avec l'hyperconnectivité entre le DMN et le visuel.
R égale 0,82, 0,80. C'est quasi parfait comme corrélation en biologie, c'est énorme, oui. Ça veut dire que plus le cerveau montre cette signature spécifique, plus le participant rapporte que le temps s'étire. C'est une preuve quantitative très forte, incroyable. Et pour les entités, pareil. Le simple fait de rapporter la présence d'entités, c'est corrélé à des marqueurs combinés EEG et IRMF avec un coefficient de R égale 0,78.
Donc, on peut presque voir dans le cerveau si la personne est en train de rencontrer une entité.
C'est l'idée. Et ça va même plus loin. On peut parfois lier des événements subjectifs très précis à des moments d'activité cérébrale spécifiques et transitoires,
comme l'exemple d'une entité maternelle rose.
Exactement. Sa présence coïncide avec des pics de puissance gamma dans une zone précise, le cortex orbitofrontal, qui est lié aux émotions, à la valeur affective des choses.
Et les messages de bienvenue.
Où il semble aligné temporellement avec le début du découplage frontopariétal, comme si le fait de lâcher le contrôle ouvrait la porte à ces messages.
Ce que tout ça suggère, finalement, c'est que ces expériences, même les plus étranges, les plus profondes sous DMT, elles ne sont pas juste dans la tête, au sens flou. Elles sont une base neuronale incroyablement précise, mesurable, reproductible, et même partagée entre les individus.
C'est une excellente façon de le résumer. Ça réduit un peu le fossé qu'on imagine souvent entre le subjectif et l'objectif.
Et ça nous amène directement aux grandes questions. Comment interpréter tout ça?
Oui, la question ontologique, comme on dit. Est-ce que ces expériences nous donnent accès à une autre réalité, à d'autres intelligences, ou est-ce que tout ça, c'est juste le produit de notre cerveau, de notre psychologie profonde, activée par la molécule?
On a vu que beaucoup de ceux qui le vivent penchent pour la première option. Ils sont convaincus que les entités sont réelles. Mais bon, scientifiquement.
Scientifiquement, la question reste ouverte, bien sûr, mais même sans trancher sur la nature réelle de ces mondes, il y a des implications potentiellement très concrètes.
Sur le plan thérapeutique, par exemple?
Exactement. L'idée de l'écologie cosmique, ou les détails du PDF mapping, suggère que chaque type de rencontre pourrait avoir une fonction. Une entité nourricière, maternelle, ça pourrait aider pour des traumatismes d'attachement,
des guides ou enseignants pour trouver un sens à sa vie, une direction.
Voilà. Même les farceurs, les jesters pourraient avoir un rôle, nous aider à déconstruire nos croyances rigides, notre ego, mettre un peu de souplesse dans nos têtes.
Et l'impact semble puissant. Le score de transformation de vie dans l'étude mapping, 91,5 sur 100 en moyenne. C'est énorme.
C'est considérable. Et ces idées d'accès à autre chose, de transformation radicale, ça fait écho à ce que disait quelqu'un comme Terence McKenna.
Ah oui, McKenna, il voyait les tryptamines, comme la DMT ou la psilocybine, comme des outils, non, pour parler avec l'autre.
C'est ça. Le logo aussi l'appelait ça. Une sorte d'intelligence supérieure, d'esprit organisateur. Pour lui, c'était pas une métaphore. C'était un accès réel à un continuum parallèle.
Il allait loin. Il disait que le corps était le placenta de l'âme. Que ces expériences nous préparaient à l'après-vie. C'est radical comme vision.
Très radical, oui. Et il connectait ça à plein d'autres choses, le phénomène OVNI, par exemple. Pour lui, c'était pas des vaisseaux en tôle, c'était la manifestation d'un archétype de totalité dans notre psyché collective, un signe de crise de notre civilisation trop matérialiste.
Il voyait même la technologie comme une sorte d'externalisation de notre psyché.
Oui, comme une tentative de sortir l'âme de nous, de construire le vaisseau spatial intérieur. C'est une pensée complexe, parfois un peu délirante, mais avec des intuitions intéressantes.
Et c'est vrai que ça résonne étrangement avec certaines recherches actuelles sur la structure de ces expériences, leur potentiel transformateur. Il disait qu'il fallait prendre au sérieux l'information, la gnosis, qui venait de ces états.
Et cette idée de cartographier, d'extraire de l'information, ça nous projette vers le futur de la recherche. Et là, l'intelligence artificielle pourrait devenir un outil clé.
Les notes de synthèse et l'interview de Sarah Hunt qui en parle, c'est ça, Kali?
Oui. On a vu qu'il y a des corrélations quantitatives fortes. IA, le machine learning, ça pourrait nous aider à analyser toutes ces données, les récits subjectifs, les mesures cérébrales pour trouver des motifs encore plus fins.
Affiner les liens entre ce qui se passe dans le cerveau et ce qui est vécu.
Exactement. Une des notes évoque même la possibilité un jour de reconstruire des aspects visuels de l'expérience juste à partir des données du cerveau. C'est encore noir, mais
Sarah Finn Huntley, elle travaille sur un projet concret avec l'IA, non? Ce guide des entités DMT.
Oui, The Illustrated Field Guide to DMT Entities. L'idée, c'est d'utiliser l'IA pour traiter et visualiser les descriptions d'entités que les gens rapportent. Une sorte de cartographie collaborative assistée par machine. C'est fascinant comme approche.
Et après, quelle est la prochaine étape?
L'étape d'après, ce serait de passer de l'analyse après coup à une cartographie en temps réel. Les notes sur l'IA neuroprédictive imaginent ça. Avoir les données EEG, RMFI qui arrivent en direct et des algos qui prédisent à chaque instant l'état subjectif probable de la personne.
Mais dans quel but? Juste pour regarder.
Pas seulement. L'objectif ultime, un peu futuriste, c'est la modulation en boucle fermée.
C'est-à-dire,
si on peut lire l'état subjectif en temps réel grâce au cerveau, on pourrait imaginer intervenir très subtilement, peut-être ajuster la dose ou utiliser d'autres stimuli pour guider l'expérience
en thérapie, par exemple. Pour aider à traverser un moment difficile ou approfondir un moment positif.
Voilà l'idée. Aider à naviguer, à maximiser les bénéfices. C'est encore de la science-fiction, hein, soyons clairs, mais c'est une des directions qui motive la recherche.
C'est vertigineux comme perspective.
Bon, si on essaie de résumer un peu notre exploration d'aujourd'hui, on retient surtout cette cohérence étonnante des expériences DMT. Les entités, les dimensions, le temps qui s'étire, ce n'est pas juste un délire aléatoire.
Il a une structure, peut-être même une mécologie interne, comme on l'a vu.
Et surtout, le fait que tout ça a une base neuronale très spécifique, une signature d'un cerveau qui est non seulement réel, mesurable, mais aussi remarquablement similaire entre les gens.
Avec des liens quantitatifs, des chiffres, très fort entre cette activité cérébrale et ce qui est vécu subjectivement.
Exactement. Le fossé entre le cerveau et l'esprit se réduit un peu ici.
Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, peut-être une question pour la route.
Si c'est aux royaumes intérieurs, pour reprendre McKenna, ont une structure si cohérente, si reproductible, si ancrée dans des états cérébraux mesurables et partagés. Qu'est-ce que ça nous dit vraiment sur la nature de notre conscience? Ou même, soyons fous, sur la nature de la réalité elle-même?
Est-ce que la frontière entre hallucination et réalité est aussi nette qu'on ne croit?
Surtout quand l'expérience est décrite comme plus réelle que le réel.
Voilà de quoi réfléchir.
Merci de nous avoir suivis dans cette plongée un peu particulière.